France Inter, le 18-20.
C'est difficile d'avoir des chiffres extrêmement fiables, mais les ordres d'idées, on les a bien, ils sont plutôt très parlants. Il reste en Syrie en ce moment entre 650 et 700 Français, et parmi eux, il y a 300 femmes parties pour suivre un homme, suivre une idéologie ou les deux à la fois. Et très souvent, là-bas en Syrie, elles ont fait des enfants. Ils sont 4 à 500 les enfants toujours là-bas. Et maintenant, il y a les retours, à peu près 70 revenantes depuis 2013. Et finalement, les femmes, c'est peut-être encore plus compliqué que les hommes. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait des enfants? Est-ce qu'on sépare les femmes de leurs enfants? Comment on fait pour les remettre dans une ligne droite? Est-ce qu'on le fait ensemble? Est-ce qu'elles sont dangereuses, ces femmes-là? Est-ce qu'elles sont toutes dangereuses? Allez-y. On les pose toutes ces questions ce soir. Nous sommes en partenariat avec France 2 qui y consacre aussi sa soirée. Ce sera à partir de 23h15. On y reviendra. En attendant, c'est à vous d'ouvrir le débat.
Fabienne Saint-Esse. Le téléphone sonne.
Et bonsoir Guy, vous êtes le premier ce soir. Oui. Soyez le bienvenu, on vous écoute.
Bonsoir et merci et bravo pour votre émission. Ma question est la suivante. Il va y avoir, comme vous l'avez signalé, un retour de 300 femmes qui étaient parties, un peu pas la fleur au fusil, mais qui étaient parties avec des convictions plutôt amoureuses que, disons, religieuses. Je voulais savoir quels sont les critères qui vont être établis si elle rentre en France, pour les mettre à l'abri de nuire, soit de les réintégrer. Quels sont les critères? Parce que on peut rien leur reprocher. Tout ce qu'elles ont fait, c'est en Syrie ou en Irak, et on n'a pas de preuves. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il y aura, puisqu'il y a des établissements mais qui sont surchargés avec une violence extrême, est-ce qu'il y aura des moyens autres pour justement qu'elles restent avec leurs enfants, parce que ces enfants, est-ce qu'ils sont, ils sont nés, et s'ils ont la nationalité du sol où ils sont nés, c'est-à-dire en Irak ou en Syrie, ou est-ce qu'ils sont de mère française? Comment on peut faire? Quelle est la nationalité des enfants? Celle des mères, on les connaît, mais des enfants, on ne sait pas. Voyez.
Eh ben oui, on voit très bien, et grâce à vous Guy, et grâce à votre question, vos multiples questions, on va pouvoir balayer beaucoup de choses en ce début d'émission. Pour vous répondre, Guy, et pour participer à ce débat avec nous pendant toute cette soirée, Lydie Maninkeda est avec nous, bonsoir. Votre fille est en Syrie, vous n'avez pas de nouvelles depuis août 2017, et vous allez nous raconter votre histoire, mais aussi ce que vous voulez pour elle lorsque vous la reverrez, parce que vous avez évidemment toujours espoir de la revoir. Florian Lastel est là également, bonsoir. Monsieur Lastel, vous êtes avocat, vous avez défendu des jeunes gens, des jeunes femmes aussi à leur retour de Syrie. Parmi vos clients, il y a aussi des jeunes femmes qui sont incarcérées en France ou qui sont en Turquie en attente de pouvoir revenir. Et puis Sophie Parmentier est là également, spécialiste de ces questions pour France Inter.
Bonsoir.
Bonsoir Sophie. Qu'est-ce qu'on peut dire, Florian Lastel, d'abord pour répondre à Guy de manière très concrète, est-ce qu'il y a vraiment un critère? Si c'était si simple, ça se saurait peut-être. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un critère ou quelque chose?
Il y a un critère, c'est la loi, et merci à Guy pour cette question qui a été posée avec un prisme d'humanité. Ça fait du bien d'entendre ça, lorsqu'on est avocat, et j'imagine lorsqu'on est à la place de cette dame qui est à côté de moi. C'est la loi. Simplement, sont-elles coupables d'associations de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste? C'est un débat qui est extrêmement complexe, une infraction complexe à qualifier. C'est pour cela qu'il y a des services compétents qui s'en occupent, qu'il y a des services de renseignement qui sont compétents. Ces personnes sont ensuite déférées devant la justice, et c'est bien à cette justice française de s'occuper de ces femmes.
Est-ce que c'est plus facile finalement pour un homme, je mets beaucoup de guillemets dans ce que je suis en train de dire, mais finalement, est-ce que les parcours sont pas plus clairs en fait, et donc rendent la tâche de chacun plus facile en cas de retour que pour les femmes?
Je ne suis pas certain. Je pense que tout départ en Syrie est complexe. Je pense que toute implication d'un individu en Syrie est complexe. Guy, votre auditeur, a parfaitement raison. Ces femmes, le plus souvent, ne partent pas avec la fleur au fusil. Il y a évidemment de multiples raisons de vouloir quitter le territoire. Il y a, par exemple, l'amour. Et ça, c'est un débat qui a déjà été creusé avec des millénaires de littérature, où on suit un homme partout dans le monde. Et puis, il y a aussi des femmes qui ont besoin d'un idéal et qui s'y sentent bien. C'est peut-être pour cela qu'elles ont voulu partir. Et évidemment, pas simplement avec une volonté guerrière ou djihadiste, qui est un terme que l'on utilise bien trop.
Sophie Parmentier, est-ce qu'on sait d'ailleurs ce que font les femmes ou ce que faisaient les femmes une fois arrivées en Syrie ou en Irak? Est-ce qu'on sait s'il y a eu un rôle précis qui leur a été assigné?
Ce qui est certain, c'est que le rôle précis qui leur a été attribué au départ, c'est d'être femme au foyer et de procréer, en fait, de procréer une génération de djihadistes. Et donc, en effet, je pense que les femmes qui sont parties avec des velléités guerrières sont extrêmement minoritaires, qu'il y a beaucoup de femmes qui sont parties par amour pour suivre un homme, un mari qui tout à coup décidait de partir en Syrie, ou vous savez, ces très jeunes filles en fait qui sont très souvent tombées amoureuses sur internet avec ces photos de djihadistes qu'on voyait poser avec une Kalachnikov. Il y avait vraiment une vision romantique. Donc ces femmes-là, elles sont parties, en tout cas soit elles étaient mariées avant de partir, soit elles se mariaient dès qu'elles arrivaient en Syrie, très vite. On sait aussi qu'il y a eu des mariages par les réseaux sociaux, par Skype, et en effet, ce qu'on leur demandait sur place, eh bien, c'était d'avoir des enfants et d'élever les enfants. Donc très souvent, elles étaient à la maison, et ces images qu'on voit de femmes avec des kalachnikovs ou avec des fusils à pompe, eh bien, ça ne veut pas dire que les femmes ont combattu. Les femmes, encore aujourd'hui, n'ont pas eu le droit d'aller au front. Il y en a quelques-unes qui ont demandé à faire des opérations martyrs, mais il y en a quelques-unes qui peut-être ont pu s'entraîner, mais en tout cas, les femmes n'allaient pas au front comme les hommes. Juste pour compléter peut-être par rapport à la question de Guy, les enfants en effet qui sont nés là-bas n'ont pas d'état civil à leur retour en France, parce qu'ils sont nés sous le califat de l'État islamique. Qui n'existe pas aux yeux de l'État français, donc il faut leur donner un état civil provisoire quand ils rentrent en France. Et à la question de savoir est-ce qu'ils rentrent avec leur mère ou pas, est-ce qu'ils peuvent rester avec elle, oui, quand les mères sont incarcérées, on aura sans doute l'occasion d'y revenir plus longuement, mais en tout cas, à la prison de Fleury-Mérogis, par exemple, en nurserie, les mamans peuvent rester avec leurs enfants jusqu'à l'âge de 18 mois environ, mais il y a aussi, parfois avec des bébés, des opérations de placement.
Et on y reviendra, évidemment, sur effectivement comment on fait avec les enfants, combien, est-ce qu'on les laisse avec leur mère, est-ce qu'on les laisse pas avec leur mère. Lydie Manin-Keda, de tout ce qu'on vient de dire, j'imagine que vous avez reconnu votre fille, en fait. Lorsqu'elle part, est-ce que vous savez pourquoi elle part?
Alors, elle est partie il y a 3 ans.
On est en 2014.
Elle était en 2014, oui, mais il y a eu déjà un avant, hein, 2014, c'est-à-dire qu'elle s'est convertie quand elle était en France. Elle était en études littéraires et philosophiques. Elle avait un intérêt particulier pour la philosophie, et puis voilà, un besoin de spiritualité. Elle s'est intéressée à l'islam, au Coran, et donc quand elle a été allée ensuite en classe prépa, elle est partie du domicile la semaine, elle était en internat, et donc elle a malheureusement à cette époque-là rencontré des recruteurs, enfin des personnes qui l'ont amenée vers un islam radical. Et nous n'étions pas au courant, c'était avant les attentats de Charlie Hebdo. Hein, donc ensuite elle est partie en Allemagne pour poursuivre ses études, et c'est en Allemagne que vraiment rapidement là elle s'est radicalisée, parce qu'elle a rencontré un Allemand qui était dans une mouvance radicale, et donc en 4 mois on a vu notre fille transformée, changer, porter le niqab.
Vous avez eu le sentiment qu'il y a eu quelque chose de comme une énorme naïveté, en fait, chez votre fille,
idéal.
Ou quelque chose de plus fort?
Il y avait un idéal, un besoin avec son compagnon d'aller vivre leur vrai islam, comme il nous le disait, hein, dans un pays, alors nous, on ne savait pas encore dans quel pays, il n'en parlait pas, hein, mais de vivre vraiment un islam vrai, c'est-à-dire que j'ai retrouvé ma fille habillée en niqab, son compagnon, c'était son mari, elle avait absolument plus le droit de sortir sans lui. Elle a arrêté ses études, elle n'avait plus le droit de voir d'autres hommes, donc elle a arrêté ses études. Donc nous, mon mari et moi, avons été complètement surpris, étonnés, on a essayé de dialoguer, c'était impossible. On avait face à nous une personne qui avait, j'avais l'impression d'avoir quelqu'un qui avait le cerveau complètement lavé, elle n'avait plus son libre arbitre, elle était complètement transformée, et on ne pouvait absolument pas dialoguer avec eux.
Et Lydie Manin-Keda, lorsqu'elle part, vous avez contact avec elle pendant un certain temps, puisque vous n'avez plus de nouvelles depuis août 2017, donc entre 14 et 17, vous avez des nouvelles. Est-ce qu'elle vous parle de sa vie? Est-ce que vous avez l'impression d'en percevoir quelque chose ou pas?
Oui, alors la première année avant que Raqqa soit bombardée, j'ai eu effectivement régulièrement des nouvelles, je dirais une fois, voire deux fois par semaine, des photos, des vidéos de ma fille, des enfants, hein, parce qu'elle avait déjà un enfant avant de partir, elle en a eu un deuxième. Donc, je la voyais dans son appartement, faire à manger, s'occuper de ses enfants. Elle ne sortait que lorsque son compagnon rentrait avec lui. Donc, je voyais plutôt une femme au foyer et on parlait de cuisine, on parlait des enfants, comme si elle était, dans une ville près de chez nous.
Ça veut dire qu'elle n'a jamais exprimé l'envie de rentrer. C'était peut-être trop tôt. Il faut remettre les gens un peu dans le calendrier. Hein. En août 2017, c'est le début du siège de Raqqa, mais c'est le tout début. C'est à ce moment-là que les choses commencent à tourner dans l'autre sens pour Daesh. Donc à ce moment-là, des désirs de retour. Vous n'avez absolument rien entendu.
Pas de désir de retour. Pour l'instant, elle ne souffrait pas. Les enfants ne souffraient pas. Donc il n'y a pas eu de désir de retour.
Quand vous entendez, Lydie, parce qu'on aura des questions de ce type-là, il y en a déjà qui arrivent sur franceinter.fr, ces femmes sont dangereuses. Est-ce que vous vous dites, au fond, je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas pour ma fille, parce que je ne sais plus très bien qui est ma fille, en fait.
Alors,
vous traverse l'esprit, ça ?
Oui, ça m'a traversé l'esprit. Ça me traverse l'esprit, effectivement, parce que ma fille a été changée, transformée. Elle a été embrigadée, donc je ne l'ai pas reconnue. Hein, quand je l'ai vue en Allemagne, pour moi, c'était plus ma fille, c'était qu'une enveloppe avec quelqu'un qui avait des idées qui étaient contraires à son intelligence, hein, à sa poursuite d'études, son intelligence. Et puis contraire aussi aux valeurs humaines qu'on avait pu lui donner. Et j'ai gardé l'espoir jusqu'au bout qu'à un moment donné, il y ait un déclic et que se rende compte qu'effectivement, qu'elle n'était pas dans la bonne voie. Hein. Elle est partie de bonne foi. Je sais qu'elle est partie de bonne foi. Est-elle dangereuse ? Là, je ne le crois pas.
Jean-Jérôme nous appelle au 01 45 24 7000. Bonsoir Jean-Jérôme, soyez le bienvenu. On vous écoute.
Oui, bonsoir France Inter et bonsoir à vos invités.
Allez-y, on vous écoute.
Tout d'abord, deux choses. La première chose, je tiens à spécifier que je suis athée. Donc, je n'ai aucune religion en tête. Voilà. Je tiens simplement, à donner un petit peu mon avis. Voilà. Alors, je voudrais aussi, avant toute chose, m'excuser auprès de la maman de la fille qui est partie là-bas.
Elle vous écoute.
J'entends bien. Je suis papa de trois filles. Comme elle a dit, ma fille a eu le cerveau lavé. Alors, pour faire simple, moi je suis contre le retour de ces personnes. Et excusez-moi madame, franchement, je vous le dis, je le répète, je suis papa de trois filles. Mais j'aurais peur, dans l'absolu, que demain, votre fille, pour une raison X ou Y, fasse des bêtises sur le territoire français. Voilà, j'ai pas l'habitude de m'exprimer à la radio.
Non, mais on a bien compris ce que vous disiez, Jean-Jérôme, mais vous n'êtes pas le seul à avoir cette question-là. Elle est légitime et vous avez bien fait de la poser. Et on va vous répondre. D'ailleurs, Lydie d'abord peut-être et Florian Lastel, vous vouliez ajouter quelque chose.
Allez-y. Oui, moi j'aimerais bien répondre. Je connais ma fille, je l'ai mise au monde. Je sais qui elle était. Tous ses amis, toute sa famille aussi sont très surpris du changement qui a pu opérer chez elle. Et je pense qu'elle a le droit à une seconde chance. Et la chance, c'est de rentrer en France et qu'on puisse l'aider à se reconstruire. Et de se reconstruire en l'aidant peut-être en mettant en place des structures. Et je pense que ça, on a oublié de le faire parce qu'on savait qu'à un moment donné, il y aurait tous ces retours. Hein, donc il faudrait peut-être des structures et pour que les jeunes puissent être aidés psychologiquement et puis aussi se réinsérer professionnellement. Ça, j'en suis persuadée. Et il y a les enfants aussi, hein, les enfants qu'elle a eus qui sont des enfants innocents. Et je pense qu'elle a besoin d'être auprès d'eux, et eux aussi ont besoin de leur mère.
Florian Lastel, cette réaction de Jean-Jérôme, on l'entend beaucoup, vous l'entendez vous aussi beaucoup, j'imagine. Et en même temps, quand Jean-Jérôme nous dit « moi je veux pas qu'elle rentre », en même temps, est-ce que c'est possible ?
Considère que dans la société dans laquelle on vit, c'est absolument impossible, ce serait indigne. Bien que je comprenne parfaitement cette réaction de Jean-Jérôme, qui nous parle avec sincérité, et ce que je veux lui dire également, en toute sincérité, sans aucune agressivité, c'est que être contre le retour de ces personnes, il faut bien mesurer ce qu'on dit, c'est faire un bond en arrière absolument terrible de plusieurs siècles de pensée, de philosophie, de droit pénal, simplement. Il a raison de s'inquiéter, mais ces personnes, nous pouvons les juger. Tout d'abord, elles sont françaises, ce sont des compatriotes. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas nier. Donc, elles vont rentrer. Et lorsqu'elles vont rentrer, nous sommes dans une société où il y a des policiers, des magistrats, des professeurs, des avocats, des structures qui existent pour justement évaluer cette dangerosité. Et qu'ils soient rassurés, même si c'est pas évident d'être rassurés dans ce contexte, mais qu'ils soient rassurés, ces femmes, lorsqu'elles rentrent, sont extrêmement rarement remises en liberté. Et lorsqu'elles sont remises en liberté, c'est qu'elles présentent des garanties extrêmement précises et solide.
Jean-Jérôme, puisque vous êtes resté, je sais que vous voulez réintervenir. Quand vous entendez Florian Lastel dire « nous pouvons les juger », pourquoi est-ce qu'on ne saurait pas juger ces femmes une fois rentrées, selon vous, Jean-Jérôme ?
Pour moi, c'est pas une question de jugement. Et j'entends bien, j'écoute votre émission, c'est pas une question de jugement. Je dis simplement que ces femmes vont rentrer, la plupart auront des enfants. On va les mettre en prison, en attendant. Les enfants vont, c'est ce que j'ai écouté, jusqu'à 18 mois, vont être avec leur maman. À l'issue, il y a 19 mois, 20 mois, on fait quoi des enfants? Ça, c'est la première question. La deuxième question, moi, je veux bien réinsérer ces personnes. Ça ne me pose aucun problème. Je serai le premier. Je dirais, si demain, on lève un impôt en disant, on va ouvrir des structures pour aider à réhabiliter et aider ces gens. Ça ne me pose aucun problème. Le problème, il est qu'aujourd'hui, en France, on a... Alors, je me trompe peut-être, et c'est pour ça que j'écoute votre émission. On n'a aucun moyen d'être sûr que demain, ces personnes, et je m'excuse encore auprès de la maman de cette fille qui est partie, je dis qu'on n'a aucun moyen de savoir si demain, cette personne ne va pas avoir des mauvaises idées dans sa tête, de faire des choses... des attentats, des choses comme ça. Voilà, je suis juste inquiet. Demain, on est capable de me dire... on réhabilite les gens, on les réintègre, on va les aider à 100%. Moi, je pose aucun dictat là-dessus, ça ne me pose aucun problème.
Merci.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de m'affirmer que demain, moi, j'ai des enfants, elles prennent le métro n'importe quoi, tac, qu'est-ce qui se passe? Boum, une bombe, pourquoi? Parce que quelqu'un a fait péter une bombe.
Merci, voilà. On a compris ce que vous disiez, Jean-Jérôme, merci beaucoup pour votre question et ces réflexions-là. Sophie Parmentier, vous vouliez ajouter quelque chose?
Plusieurs choses. D'abord, peut-être, ces revenantes font peur à Jean-Jérôme. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des jeunes femmes qui ont été mises en examen pour association de malfaiteurs terroristes et qui étaient en France, qui n'ont pas pu franchir la frontière syrienne et qui, pour certaines, ont des projets d'attentats plus ou moins aboutis. Donc, on ne peut pas simplement avoir peur de revenantes et il y a aussi des femmes qui sont restées en France. Et par ailleurs, on le disait, il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont parties notamment au début par amour pour un homme. Il y a aussi, c'est quelque chose de récurrent, en fait, Lydie Manin-Kedal disait, beaucoup de jeunes femmes sont parties pour faire leur hijra. En fait, l'émigration est pour, parce qu'elles avaient l'impression qu'elles ne pouvaient pas vivre leur religion comme elles le souhaitaient en France. Elles voulaient la vivre autrement là-bas. Il y a quelque chose de récurrent encore. Beaucoup de jeunes femmes, par exemple, ont été victimes de violences sexuelles et sont parties là-bas. Elles avaient l'impression de se protéger derrière leur niqab et même le sitar en Syrie. Et ne sont pas du tout parties avec une volonté de commettre des attentats. Donc ces femmes-là, pour certaines, sont rentrées très vite. Parce que là, on parle de celles qui sont là-bas et qui ne sont pas rentrées. Mais il y en a qui sont rentrées au bout de quelques mois, qui ont été jugées. Moi, je connais certaines jeunes femmes que je considère réinsérées. En tout cas, elles ont été jugées à leur retour. Je pense que oui, la justice peut juger ces femmes convenablement. Parfois, la justice est d'ailleurs très sévère. La femme la plus âgée qui soit partie en Syrie, qui s'appelle Christine Rivière, elle a 51 ans. Elle a été condamnée il n'y a pas longtemps à 10 ans de prison. C'est la peine maximale devant un tribunal correctionnel. Et donc, oui, je pense qu'on peut les juger et qu'on peut leur laisser une seconde chance. Et enfin, par rapport aux structures, certaines sont incarcérées en prison, mais des choses sont faites en prison pour elles, pour les suivre. Donc je pense qu'on peut aussi garder espoir pour certaines, pour d'autres c'est évidemment compliqué.
Florian Lastel, est-ce qu'il faut inventer quelque chose, justement je ne sais pas si ce sont des lieux, des centres pour ces femmes-là, pour qu'elles puissent rester avec leurs enfants, que la réhabilitation de chacun se fasse ensemble. Est-ce qu'il faut inventer quelque chose de différent, de neuf, ou est-ce que nous avons entre les mains tout ce qu'il faut, y compris d'ailleurs pour s'occuper donc des enfants dont on sait que après 18 mois, théoriquement, ils doivent quitter leur mère?
Je crois qu'on a essayé de trouver des structures pendant ces quelques années qui viennent de passer, et manifestement c'est un échec. C'est un échec parce que, en fait, si nous ouvrons les yeux, nous nous rendons compte que nous n'avons pas affaire à des situations nouvelles. Ce qui a été nouveau, c'est les attentats absolument atroces qui se sont déroulés sur notre territoire. Mais nous avons un arsenal juridique qui peut nous permettre d'atteindre, pas le risque zéro, parce que, et je parle à notre auditeur, ceux qui vous font croire qu'un risque zéro est possible sont des menteurs. tout simplement. Et ceux qui prennent ces micros pour vous dire qu'un risque zéro est possible, ce sont des menteurs. Aujourd'hui, nous avons un arsenal juridique qui permet d'accueillir les enfants au sein de la République, tout simplement. Faisons confiance à notre société, à notre République, qui a des structures, des familles, qui peuvent accueillir ces enfants.
En l'état, est-ce que si la fille de Lydie revenait, est-ce qu'on pourrait confier les enfants de sa fille à Lydie, par exemple? Est-ce que ça se fait de manière aussi simple?
Alors, c'est un petit peu complexe, je ne connais absolument pas le dossier de cette dame, mais dans le cas où sa fille serait placée en détention provisoire, j'imagine que les enfants, dans un premier temps, seraient placés provisoirement dans un foyer ou dans des familles d'accueil. Mais évidemment, il y a un débat qui se déroulerait très régulièrement devant un juge des enfants compétent et qui pourra accéder à la demande de la grand-mère ou de la tante ou je ne sais quoi, des membres de la famille qui seraient prêts à accueillir ces enfants à l'issue d'enquêtes précises effectuées par des professionnels.
Lydie Manin-Kéda, vous le souhaitez, de ce que j'ai cru lire, si votre fille rentrait, oui, que vous puissiez retrouver vos petits-enfants, c'est ce que vous souhaiteriez. Est-ce que vous avez une pointe d'inquiétude face à un petit garçon, une petite fille, je ne sais pas, celle qui est née la première?
Alors, premier, c'est un garçon.
Voilà,
il a eu 4 ans hier.
C'est déjà un petit bonhomme.
Voilà.
Donc, est-ce que vous auriez une forme d'inquiétude? Qu'est-ce qu'il a vécu pendant ces 4 années? Donc, est-ce que moi, j'ai la capacité, même si je suis sa grand-mère, à m'occuper de ce petit garçon?
Oui, j'aurais de l'inquiétude, parce que pour lui, je serais une inconnue, hein, pour le deuxième aussi, et le troisième devrait naître là où est né, je ne sais pas, comme j'ai pas de nouvelles. Mais ce sont les enfants de ma fille, hein, et je tiens donc à faire une demande, effectivement, si elle rentre, et je savais très bien sûr par mon avocat qu'elle serait en garde à vue, qu'elle serait interrogée, qu'elle serait sans doute condamnée, et que je ferai une demande avec mon avocat pour pouvoir avoir les enfants et m'en occuper. J'ai perdu, je pense qu'on m'a enlevé ma fille unique pendant plusieurs années. Je ne sais pas quand je reverrai ma fille unique, et je pense que j'ai un besoin immense de m'occuper de mes petits-enfants.
Sophie Parmentier.
Peut-être pour ajouter, ce qui se passe en fait quand les parents rentrent de Syrie, maintenant ils sont attendus systématiquement pour être placés en garde à vue. La garde à vue dure souvent 4 jours, et donc à ce moment-là, il y a une ordonnance de placement provisoire qui est prise pour ces enfants. Donc ils sont placés provisoirement dans des familles d'accueil, et au bout de 8 jours, des juges des enfants se prononcent. Il y a une audience pour savoir si le placement se poursuit ou pas, et donc à ce moment-là, les juges des enfants, c'est souvent les juges de Seine-Saint-Denis, puisque souvent les parents et les enfants arrivent à Roissy-Charles-de-Gaulle, essaient de privilégier l'autorité parentale, parce qu'ils considèrent que dans ces affaires de terrorisme, de la même façon que dans d'autres affaires de délinquance, eh bien, on ne doit pas forcément déchoir les parents de leur autorité. Alors évidemment, le souci des juges, c'est que l'enfant peut être en danger et qu'il faut le protéger. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour les juges, et qu'ils ne donnent pas les enfants comme ça dans les premiers jours aux grands-parents, aux oncles et tantes qui le demandent souvent, parce qu'il est nécessaire de faire une enquête. Souvent, il y a aussi, c'est pas votre cas, Madame Manin-Kéda, mais parfois il y a des relations difficiles entre le moment où les enfants sont partis en Syrie. Les relations sont houleuses, difficiles avec entre parents-enfants, et donc au retour avec ces petits-enfants qu'on ne connaît pas, bien sûr c'est compliqué, et les juges pensent à ça, mais en tout cas les enfants sont placés provisoirement, mais très souvent ils sont aussi rendus à leurs parents. Et d'ailleurs, pour certaines femmes que j'ai rencontrées, eh bien je trouve que les enfants, c'est un moteur pour se réinsérer. Souvent c'est pour les enfants qu'elles sont rentrées, pour les sauver des bombardements, pour les protéger, et c'est un moteur, et je pense que c'est vraiment un enjeu majeur des prochaines années, la place des enfants dans notre société.
Est-ce que c'est aussi pour les enfants que certaines, pour l'instant d'ailleurs, ne sont pas rentrées aussi, de peur, est-ce qu'on le sait ça?
Oui.
De peur de se voir séparer de leurs enfants?
Oui, on le sait, parce qu'elles savent, au tout début, il y a eu une évolution dans le traitement des femmes. C'est vrai qu'au tout début, les femmes, elles étaient considérées comme des victimes, elles n'étaient même pas entendues par la police en fait, elles n'étaient pas du tout poursuivies. Et puis les choses ont changé en septembre 2016 avec ce projet d'attaque avec ces jeunes femmes, ce commando de jeunes femmes qui avait placé des bonbonnes dans une voiture et qui a été retrouvée devant Notre-Dame de Paris. L'opinion publique a changé, et du coup le regard sur les femmes a changé à ce moment-là, et les policiers maintenant placent les femmes en garde à vue quasi systématiquement. Florian Lastel évidemment peut le confirmer, et en fait ce que je veux dire, c'est qu'en effet les femmes savent que en Syrie elles risquent d'être incarcérées à leur retour, et elles craignent ça, puisqu'en Syrie, elles vivent H24 avec leurs enfants. Donc oui, il y en a beaucoup qui sont restés en Syrie parce qu'elles ne voulaient pas être séparées de leurs enfants.
Je voudrais qu'on écoute Frédéric, qui nous a appelé au 01 45 24 7000. Bonsoir Frédéric.
Oui, bonsoir.
On vous écoute,
bonsoir,
allez-y.
Je voulais participer juste au débat en disant que je pense que toutes ces femmes devraient être jugées là-bas sur place. Parce qu'en fait, je pense que c'est faire injure à leur intelligence qu'elles soient parties par naïveté. Et même si elles n'ont pas participé à des combats, elles ont soutenu en faisant des enfants, en faisant la logistique ou que sais-je. Et en fait, je pense qu'il n'y a que la population locale, les autorités locales, etc., qui pourront savoir le mal qu'elles ont fait ou non. Et par contre, qu'elles soient défendues par des avocats français qui les défendent avec la vision des droits de l'homme qu'on a ici en France et tout ça, eh ben, ça me paraît plus que normal, mais que c'est à eux d'aller là-bas, parce que c'est trop facile que n'importe quelle personne qui fasse du mal à n'importe quel conflit dans le monde rentre vite en France se faire juger. Enfin, je veux dire, c'est normal qu'on soit jugé là où on a fait du mal, si on en a fait.
Merci Frédéric pour votre question directement dirigée vers Florian Lastel. Est-ce qu'on peut juger une femme en Syrie? Disons les choses clairement.
On ne doit pas juger une femme en Syrie. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de structure qui le permet. Il y a eu des récentes déclarations de je ne sais plus qui disaient qu'il fallait les juger au cas par cas et peut-être être jugé là-bas parce qu'il y aurait un État en Irak. Or, il n'y a pas un État en Irak. L'État que les gens considèrent comme existant en Irak, ça doit être 200 km autour de Bagdad. Mmh. Le reste, ce sont des milices privées, des milices chiites, des milices sunnites qui se battent entre eux, puisque c'est la guerre là-bas. Il y a également les Kurdes qui veulent un État, mais il n'y a pas d'État souverain qui garantit que ces personnes soient jugées selon nos critères et selon les conventions internationales. Ce n'est pas possible.
On a beaucoup parlé, parce qu'elle a beaucoup fait parler d'elle aussi dans la presse, de cette personne qui s'appelle Emily Koenig, qui est pour l'instant au Kurdistan irakien, autant que je sache. Là aussi, on a envie de dire cas d'école. Le Kurdistan, et pardon pour les Kurdes qui nous écoutent, mais ça n'existe pas, c'est compliqué.
Exactement, vous avez parfaitement raison, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a des milices kurdes post-marxistes, il y a des milices kurdes qui sont contre l'État irakien. Certains sont des alliés de la coalition, mais on ne sait pas grand-chose. Et je ne veux pas parler à la place de l'avocat de cette femme, mais il est absolument évident qu'il faut qu'elle rentre en France et qu'elle soit jugée selon nos critères. Ce sont des compatriotes.
Lydie Manin-Kéda, quand vous entendez tout ça, quand vous entendez cette difficulté et la réaction parfois des gens, comment ça vous fait réagir, vous ?
Ben, ça me fait beaucoup de mal. Ça me fait beaucoup de mal parce que j'aimerais quand même qu'on donne une chance à ma fille de rentrer, hein, et puis d'effectivement d'être jugée ici en France et qu'elle puisse être près de ses enfants aussi. Parce que si elle est jugée là-bas et condamnée là-bas, les enfants vont rentrer, elles seront séparées de leur mère. Je trouve que c'est encore un double traumatisme. Et puis, je voulais aussi dire que j'ai fait confiance à l'État français. J'ai signalé ma fille avant son départ. Je l'ai signalée. Quand j'ai remarqué qu'elle avait effectivement changé, j'ai demandé de l'aide. J'ai dit, voilà, je me pose beaucoup de questions, que se passe-t-il ? Et j'ai fait un signalement. C'est-à-dire, faire un signalement, c'est, entre guillemets, dénoncer sa fille, donner tous les renseignements la concernant. On est venu chez moi, on m'a posé beaucoup de questions. Et malgré tout, c'est ce signalement, on m'a donné des réponses, on m'a dit effectivement son compagnon est surveillé en Allemagne, il est dans une mouvance radicale, donc j'ai cru à ce moment-là qu'on allait empêcher ma fille de partir. Ça n'a pas été le cas, donc je peux effectivement comprendre qu'à l'époque on ne pensait pas encore de la dangerosité du phénomène, du fléau. Donc ma fille est partie, on ne m'a pas aidé à l'empêcher de partir. Donc maintenant, j'aimerais bien qu'on m'aide à la faire revenir. Et je suis, de toute façon, je sais qu'elle sera jugée. J'en suis maintenant, convaincue. Enfin, je veux dire, je n'ai pas le choix. Voilà, c'est plutôt le bon terme. Je n'ai pas le choix. Je sais qu'elle va revenir, qu'elle sera, elle va devoir répondre de son implication, même si son implication était une implication indirecte. Je la considère plus comme une victime. Donc, elle va quand même devoir répondre de cette implication. Mais je veux qu'elle le fasse dans notre pays, qui est un état de droit, qu'elle soit jugée ici.
Précisons qu'elle est présumée innocente. Voilà,
c'est ce que dit le droit. William, sur franceinter.fr, pose une question pour vous, Florian Lastel. Mmh. Dans les personnes qui se sont rendues en Syrie, dans les rangs de Daesh, existe-t-il dans l'appareil juridique une question de trahison? Car finalement, c'est rejoindre un groupe qui souhaite la destruction de la France notamment. Est-ce que le qualificatif de trahison est conforme dans ce genre de cas ou pas du tout?
Qui souhaite la destruction de la France?
Puisque le groupe Daesh souhaite la destruction de la France et qu'ils se sont engagés pour le groupe Daesh, est-ce que l'idée d'une trahison existe? Est-ce qu'on peut le transposer?
Non, juridiquement, c'est de l'association de malfaiteurs, c'est rejoindre un groupe terroriste. Mais juridiquement, la trahison me semble difficile à qualifier.
Bruno, ça fait 25 minutes 48 secondes que vous attendez, et je m'en excuse, et on vous écoute. Allez-y Bruno, bonsoir.
Oui, bonsoir, je vous en prie, pas de problème. Merci pour la qualité de vos émissions, on vous le dit souvent, mais là c'est sincère.
On aime bien.
Et puis voilà, ça fait du bien aussi de se le dire. Et puis je remercie aussi les intervenants autour de la table et les personnes, les auditeurs qui sont Jean-Jérôme, je crois, et Frédéric, puisque je dirais à certains égards, je me reconnais dans ce qui a pu être dit. Mais mon opinion a évolué, moi, personnellement, sur le sujet. Je considère aujourd'hui que, même si tout ce qui a été dit avant est tout à fait juste, hein, la peur légitime qu'on peut avoir sur des personnes qui, on va dire, rempileraient dans une action terroriste sur notre territoire, ou qui souhaiteraient se soustraire à une certaine forme de justice pour des actions qu'elles auraient ou non menées, mais il me semble aujourd'hui que les conditions sont quand même réunies en France pour qu'on puisse les juger, sans faire de distinguo entre les hommes et les femmes, après tout, qui sont allés, parce que pour moi, ce qui compte, c'est les motivations qu'avaient les uns et les autres en allant là-bas, les actions qui ont été menées sur place, sans distinction de sexe, et que derrière, il y a des enfants, et qu'ils n'ont pas choisi d'être dans cette galère. Donc, par humanité, et peut-être aussi un peu par pragmatisme, moi, il me semble que la solution, c'est que ces personnes puissent revenir, qu'on les juge sur place et qu'on les traite comme la loi le prévoit. Et pour ce qui est, vous entendez tout à l'heure parler de structure, mm-hmm, pour faciliter les relations, comment on va gérer les enfants et les relations avec leurs parents plus tard. Moi, je souhaite que ces structures-là, elles existent, mais qu'elles existent au même titre pour ces personnes que pour les familles où on n'est pas sur des faits de terrorisme, mais bon, sur des vols ou sur des choses, je sais pas comment l'avocat pourra le qualifier, mais bon, de droit commun, quoi. Pas sur des actes de terrorisme. Il faut qu'on soit en capacité de réintégrer ces personnes et leurs enfants, mais au même titre que d'autres qui ont pu commettre des actes non liés au terrorisme.
Merci beaucoup pour votre question, pour vos remarques, surtout Bruno, Florian Lastel peut-être.
Alors, c'est formidable de voir les consciences qui évoluent. C'est-à-dire que pour moi, vous représentez quelqu'un qui se raccroche à nos principes. Et ça, c'est fondamental, parce que les principes que nous avons, qui sont issus des Lumières, qui n'est pas simplement un mouvement littéraire ou un mouvement philosophique, c'est un mouvement pénal, où on ne peut être jugé que par un juge indépendant et pour des faits qu'on a commis. Ces principes-là sont fondamentaux, et c'est justement quand ça ne va pas, quand un État se questionne, lorsqu'on est apeuré, lorsqu'on est terrorisé, qu'il faut bien évidemment se raccrocher à eux. Et pour moi, vous avez ce réflexe, et c'est formidable.
Peut-être. Pardon, je pensais que vous n'aviez pas fini, mais je vous en prie, je suis désolée. Sophie Parmentier.
Je pourrais continuer déjà.
Non, je peux ajouter d'un mot sur ces fameuses structures. En fait, il y a eu, vous savez, ce centre de Pontourny, donc c'est pas du tout aux femmes de retour de Syrie, mais l'idée de structure, en tout cas, et de regroupement.
Parce que moi, j'ai l'impression qu'on a un peu tout essayé, en fait, oui. À l'extérieur des prisons, à l'intérieur des prisons.
Exactement. Mais
je suis pas certain qu'on ait essayé ce qui marche et ce qu'on avait déjà. C'est-à-dire qu'à mon sens, on s'est posé trop de questions, mais excusez-moi.
En tout cas, les choses ont évolué, et c'est vrai qu'à un moment donné, il a été question de créer des structures mère-enfant, mm-hmm, et en fait, à ma connaissance aujourd'hui, cette idée est, en tout cas, pour l'instant, abandonnée, parce que vous savez, il y a cette peur de regrouper, mm-hmm, en fait, des gens qui rentraient de Syrie. Il y a eu le débat dans les prisons, et puis dans les unités dédiées qui ont été abandonnées après l'agression de surveillants à Oni en 2016. Donc, en fait, il y a une frilosité, une peur, en fait, de créer des structures un peu particulières. Et par exemple, l'administration pénitentiaire qui a... Alors, il y a une cinquantaine de femmes, aujourd'hui, qui sont incarcérées pour des faits de terrorisme. Ça représente à peu près 10% de la population pénale incarcérée pour des faits de terrorisme.
La population au féminin, vous voulez dire ? Ou de la population carcérale.
En fait, non, pas la population carcérale. En D'accord. fait, il y a 500 hommes et femmes D'accord. incarcérés pour des faits de terrorisme, D'accord. dans l'attente de leur procès ou qui ont été condamnés. Et il y a une cinquantaine de femmes. Ça veut dire 10%. Ça veut dire que c'est pas beaucoup. En même temps, ça veut dire qu'elles sont surreprésentées parce que, par exemple, les femmes, c'est 3-4% seulement de la population pénale. Ce que je veux dire, c'est que pour celles qui sont incarcérées, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi des choses qui sont faites par l'administration pénitentiaire, même si c'est compliqué. Par exemple, les enfants, par exemple celles qui sont séparées de leurs enfants, eh bien parfois elles doivent attendre des mois avant de pouvoir voir leurs enfants lors d'un parloir médiatisé, et ça c'est souvent compliqué pour elles, aussi pour les enfants.
Et ça rejoint la question de Joël sur franceinter.fr qui nous a écrit depuis Clamart. Il y a des degrés différents, dit-il, dans la question d'enfants entre un nourrisson et un enfant de 10 ans qui a pu voir, qui a pu être manipulé, qui a pu voir commettre aussi des exactions, et on ne peut pas évidemment gérer les deux de la même manière. Florian Lastel, évidemment, une remarque frappée au coin du bon sens.
Oui,
bien sûr,
c'est
pas pareil, un nourrisson et un gamin de 10 ans.
Ce n'est absolument pas pareil, mais c'est pour cela que, encore une fois, ces structures dont on parle et dont on souhaite la création, pour moi, elles existent. Encore une fois, je ne veux pas tourner en rond, mais raccrochons-nous à nos principes, c'est-à-dire que la République, en fait, ça marche. L'école de la République, c'est peut-être aussi le meilleur remède. Et nous avons autour de l'école de la République des associations de réinsertion, des associations de l'enfance qui effectuent un travail considérable, remarquable, peut-être, ajoutons-leur, des moyens, mais ces structures existent. Mais bien évidemment, cet auditeur a raison, on ne va pas traiter un nourrisson et un garçon de 12, 13, 14 ans ou une fille de 12, 13, 14 ans de la même façon.
Sophie, peut-être juste ajouter que la plupart des enfants qui sont rentrés, une cinquantaine d'enfants sont rentrés de Syrie, la plupart, c'est 18 derniers mois, la plupart sont très jeunes en fait. Ils ont souvent moins de 6 ans et le cas de figure des enfants qui auraient 10 ans, qui auraient pu aller dans des camps d'entraînement, voir des horreurs, participer à des choses difficiles, pour l'instant, il n'y en a pas qui sont rentrés. En tout cas, parmi les tout petits, donc souvent ils ont encore du mal avec le langage, eh bien, les juges des enfants qui les rencontrent disent que la parole est difficile pour eux. Ils ont du mal à exprimer. Il y a comme une amnésie, en fait, traumatique de ce qui s'est passé, de ce qu'ils ont vécu. Ils ont du mal à dire ce qui s'est passé pour eux en Syrie.
Et dans les temps d'attente, si je puis dire, Florian Lastel, puisque vous avez des clientes notamment qui sont en Turquie, par exemple. Celles qui sont en Turquie, est-ce qu'elles sont avec leurs enfants ou pas? Comment ça s'est passé pour
elles? Alors, en Turquie, lorsqu'elles sont en Turquie, en centre de rétention, les enfants sont avec elles, effectivement. Les enfants... et leurs mères seront séparées à l'arrivée, comme le disait Sophie Parmentier, à Roissy, avec cette ordonnance de placement provisoire. Et le délai, c'est extrêmement fluctuant selon les cas. C'est-à-dire que ça peut être au bout d'une semaine, au bout de 6 mois. Ce qui est certain, c'est qu'encore une fois, il y a des magistrats qui travaillent et qui essaient de trouver des solutions alternatives. Et on peut obtenir des solutions acceptables, ce que je souhaite à cette dame à côté de moi. Et c'est absolument faisable.
Ben voilà, justement, tiens, deux appels qui sont pour vous, Lady Manin Keda, et qui finalement résument assez bien ce qu'on s'est dit là pendant presque une heure sur France Inter. Ces femmes sont parties soutenir des assassins et des attentats. Ce ne sont pas des victimes, mais ce sont des complices. Et elles doivent donc être traitées comme telles. Et puis une autre qui vient et qui dit tout mon soutien pour cette maman interviewée en ce moment. Gardez espoir. Sa fille est un être humain et c'est notre devoir d'essayer de soigner la vie humaine. Ce qui est un bon résumé, effectivement, de ce qu'on a pu entendre pendant ces deux heures. Merci à tous. Merci vraiment. Et merci à tous ceux qui ont appelé ce soir.